88 971 1021, si vous avez des choses à nous dire. Il se passe énormément de choses dans l'actualité. Ce qu'on discutait tantôt avec Simon Jolin Barrette, là, sa nouvelle réforme sur la famille. Ouais. C'est du nouveau qui est sorti?
Des petites choses, mais peut-être vous mentionner là, toujours ce qui se passe. Donc, le Code civil du Québec qui va modifier pour encadrer les droits et les obligations, je vous rappelle, des conjoints de fait avec enfants, notamment en cas de séparation. Il y a un changement attendu depuis plusieurs années.
En fait, les conjoints de fait vont avoir les mêmes droits que les gens qui sont mariés à la séparation.
S'ils ont des enfants.
Est-ce que ça a été spécifié s'ils ont des enfants?
Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on...
Je pense que les gars dans les chars, c'est ce qu'ils veulent savoir.
Ils sont stressés, ils shake. Franchement, les gars dans les chars.
Mais c'est ça. Donc, si vous quittez la maison, puis là, il y a séparation, ben il pourrait y avoir une demande, pas une pension alimentaire, pour le conjoint ou la conjointe qui gagne moins cher. Ce qui n'était pas applicable avant parce que les gens n'étaient pas mariés. Si les gens étaient mariés, le conjoint ou la conjointe qui gagnait moins cher pouvait dire « ben moi, j'ai le droit d'avoir un certain montant qui va faire en sorte que mon niveau de vie ne sera pas différent que mon ex-conjoint, que mon ex-conjointe. » Il y avait quelque chose de logique dans ça, mais en même temps, si tu n'étais pas marié, il y en a qui disaient « ben là, si je pars, je vais donner une pension alimentaire pour les enfants, mais il y a hors de question que je donne une pension alimentaire pour mon ancienne blonde, exemple. Mm-hmm. » Fait qu'on, c'est ça qu'on met en place présentement.
Exactement. Donc, on va suivre ça.
Mais je répète, y ont-tu spécifié s'ils ont des enfants ensemble?
Tout ce que je lis, moi, c'est vraiment par rapport à si on a des enfants ensemble.
Ouais. OK. Bon, c'est pas spécifié.
Mais effectivement, il y a une part d'argent qui est associée au conjoint ou à la conjointe au moment où tu as des enfants. Fait que c'est pas que sur les enfants. Mais Yannick, on a encore à éclaircir, à savoir si toi et moi, on est en couple. On prend toujours ce qui est impossible à arriver. Fait que si, admettons, toi et moi, on est en couple, donc dans l'impossible.
Ouais,
mais
comme c'est toi qui gagne plus cher que moi, t'aurais une pension alimentaire
à te donner. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ça, on est encore à savoir si ça compte si on n'a pas d'enfants ensemble.
À mon plus grand plaisir, j'aurais une pension alimentaire.
Ben oui, c'est ça.
Il est chef de l'opposition officielle. Il vient faire son tour une fois de temps en temps en studio. Là, il se dit, mais voyons donc, ils m'ont pas invité pour parler de pension alimentaire. Mais oui, Claude Villeneuve, on parle des pensions alimentaires. Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ben oui, ça va bien. Content de vous voir en studio. Là. Ça fait un bout que vous n'êtes pas venu nous voir. Oui,
c'est vrai. Je parle à vos amis du matin, les lendemains de conseil, ils me réveillent avant le premier café, là, eux autres.
Ça, l'émission du matin. Hey, moi, je me souviens d'avoir réveillé du monde. Puis, finalement, on vous prendra pas une demi-heure plus tard. C'est un peu gênant. Mais c'est l'actualité.
Mais c'est l'actualité. Puis, effectivement, mais quand on accepte un mandat comme politicien, des maudits journalistes fatigants
qui viennent
à des heures pas possibles. Puis, en plus, c'est très demandant quand on est politicien parce que vous n'avez pas des heures définies de travail. Des fois, vous travaillez le matin, des fois, vous travaillez le soir, des fois, vous travaillez à la fin de semaine. Vous avez les enfants aussi au travers de ça. Pascal n'a pas d'enfants actuellement. Et elle a une vie bien remplie. Elle va voir régulièrement ses amis. Tout va toujours bien. Et elle me disait, Yann, j'espère que tu vas prendre 4 beaux jours de congé pour toi.
Fin de semaine.
Parce qu'il est tout le temps dans le jus.
Congé de
il fait tout. T'sais, il y a tout le temps quelque chose à faire, à peinturer la tondeuse, même en hiver. Il y a tout le temps quelque chose.
Et moi, de
je veux
lui
qu'il
dire,
en profite.
Et moi, de lui dire, c'est impossible. Quand on a une maison, moi, j'en ai 6 à la maison, une famille recomposée.
Ben
oui. Il y en a 6 à la maison. C'est impossible de prendre 4 jours pour soi. On peut prendre quelques moments pour soi, mais 4 jours, quand on est un père de famille, c'est impossible.
Mais pour ça
peut
c'est
pas
aussi
arriver,
avec
faut sauver
enfants,
de la maison.
Mais là, c'est les tâches.
Ben oui, c'est les tâches. C'est les tâches. Puis vous vivez la même affaire, M. Villeneuve.
Ben, c'est ça que je trouve. Depuis que je suis élu, là, c'est bizarre qu'on en parle, mais les...
Ben, c'est pas bizarre, on l'avait prévu.
Les enfants, ça va. Le bon travail comme élu, ça va. On s'en sort, ça prend beaucoup d'organisation. Mais tout ce qui est connexe, là, moi, j'ai des boîtes de déménagement il y a 3 ans qui ne sont pas encore
clairement
sur la poussière.
Ouais,
j'ai des travaux à planifier pour cet été. J'ai une clôture à faire poser. Je ne vais même pas commencer à me faire des soumissions. Ce serait le temps. Là,
ouais.
C'est comme c'est tout ce qui est connexe, tout ce qui est autour, là, ça, tu n'es plus capable. Puis moi, j'avais 3 abonnements de théâtre. J'allais au restaurant 2-3 fois par semaine, puis tout ça. Puis là, ça fait plus partie de ma vie. Là, ça reviendra.
En fait, on vit pas mal toutes la même affaire, mais les politiciens, ou ceux qui ont des horaires atypiques, des fois, ils ont la vie peut-être un peu plus dure que quelqu'un qui est tout le temps rodé, tu sais, du 8 à 5, puis il termine, passe à la garderie, le souper.
Punch in, punch out.
C'est de la job pareil, mais tu sais à quoi t'attendre, tandis que vous autres, avec le métier que vous avez, vous savez vous savez les dossiers que vous allez avoir cette semaine, mais vous savez jamais quand ça va finir.
Oui, ben j'avais coutume de dire dans le temps, quand j'étais un jeune staff politique, puis justement, je menais la vie de grand seigneur en Haute-Ville, je disais la politique, c'est routinier dans son imprévisibilité. Mm. C'est que ça, à la fin, ça finit par se ressembler, mais c'est que tu peux revirer bout de poche. Je savais pas que je venais vous voir, moi, à midi. Là, j'étais en réunion avec mes élus, puis j'ai mon petit lunch qui m'attend dans le frigo. Mais tu sais, c'est ça, on s'adapte.
On vous appelle, puis vous venez.
Mais en même temps, je suis obligé de dire que la société a évolué. Puis moi, mettons que j'ai un conseil de quartier, j'en ai deux, là, des conseils de quartier dans mon district. Les fois où je vais dire, excusez, vous êtes rendu à vos points de fonctionnement, là, payer la résolution, payer la secrétaire, ces affaires-là. Mais des fois, je vais dire, excusez, je vais rentrer à la maison, ma blonde, la misère avec les enfants, tout ça. Et les gens comprennent. Non seulement ils comprennent, mais c'est un comportement qui est attendu de notre part. Maintenant, ils s'attendent que les élus, pour forte raison, pour les hommes, je dis, parce que ça a changé de ce côté-là aussi. C'est beaucoup les femmes qui ont fait le combat pour amener ça, pour faire accepter ça. Mais aujourd'hui, c'est attendu de notre part qu'on s'occupe de nos enfants. Ça demeure exigeant. Il reste une part de sacrifice. Mais je pense que le monde sont beaucoup plus prêts à avoir un élu, à prendre un peu moins, dire non des fois, parce qu'il y a des obligations familiales qui pouvaient l'être même là, 3, 4, 5, 6 ans.
Là, vous êtes chef de l'opposition officielle. Les élections s'en viennent.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe?
Il faut que je réfléchisse. Il faut que je prenne une décision. C'est comme je l'explique un peu dans le Journal de Québec ce matin. Moi, j'ai vraiment le goût d'être maire. J'ai la piqûre. Je m'attends. Je sens en ville beaucoup d'insatisfaction quant au leadership de Bruno Marchand. Je pense que les gens veulent un maire qui parle plus d'économie puis qui s'occupe plus des services, déneigement, collecte des matières sélectives, les choses de base d'une ville. Par contre, je suis obligé de me rendre compte que j'ai des obligations familiales et que c'est dur. C'est difficile de concilier les deux. Comme conseiller municipal, comme chef de l'opposition, je suis très occupé. J'assume que je le serais encore plus si j'étais maire. Fait qu'il y a une réflexion déchirante que je suis en train de faire présentement parce que j'ai peur d'être, si j'essaie de faire les deux en même temps, être papa et être mère, j'ai peur d'être insatisfait dans les deux rôles.
Bien là, ça m'a surprise de lire ça ce matin dans le journal pour deux raisons distinctes. La première, j'étais sûre que c'était votre but. OK, on s'en va à la mairie de Québec.
Ultime.
La deuxième, côté stratégie marketing, là, pensez-vous qu'il y a des gens qui vont voter pour vous ou qui vont peut-être hésiter à voter pour vous en se disant ben, il n'est pas sûr d'être capable de remplir le mandat à 100% parce qu'il souhaite aussi être un bon papa puis être présent?
Ben, honnêtement, je vois les messages que je reçois depuis ce matin, puis j'ai les deux. J'ai autant du monde qui disent, qui se disent pourquoi tu es chef de l'opposition, tu ne veux pas devenir maire. Nécessairement, ça serait la tâche qui vient là après. Encore qu'on n'a pas beaucoup de précédents à Québec de chefs de l'opposition qui sont devenus maires à l'élection d'après. Là. En fait, je ne pense pas que ce soit déjà arrivé. Et ensuite.
Ça va probablement arriver cette année, là, que le maire va se faire dégommer après son premier mandat.
Ben, je pense que s'il y a un maire, il n'y a aucun maire en exercice qui a été battu à Québec depuis 1938.
Mais lui, ça
le va. Je pense que. En fait, le gars qui a battu le maire dernier maire en exercice, Joseph Ernest Grégoire, il s'appelait Lucien Borne. Et pour cette raison-là, je l'appelle Lucien Borne Keller.
Pour vrai, vous tournez le couteau dans la plaie, là, 1938.
Ben, c'était le grand-père de Geneviève Borne.
Oui, en tout cas, c'est dans grand-père ou arrière-grand-père, je ne sais pas exactement, mais oui, c'est dans son ascendance. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a une occasion cette fois-ci. Puis, Pascal, oui, j'ai le goût. J'ai vraiment le goût. Si j'avais juste ma peau à m'occuper, là, je sauterais dans le tas. Okay. Puis maintenant, ben, tu sais, c'est parce qu'il faut que je sois responsable. Il faut que je pense à la ville, il faut que je pense à mon équipe, il faut que je pense à mon parti, il faut que je pense à ma famille. Fait que là, il faut que je me pose ces questions-là. Mais quand je te dis que j'ai eu les deux sortes de réactions ce matin, du monde qui dit qu'il s'enlève du chemin, c'est pas ce qu'il veut faire, il y a beaucoup de gens qui voient que je suis grandé puis que je le fais pour les bonnes raisons. Je voudrais pas faire ça puis faire souffrir ma famille. Jusqu'ici, je suis satisfait de l'organisation que j'ai, mais je trouve ça difficile, je trouve ça exigeant. Puis je sais qu'en étant mère, c'est juste un niveau de
pourquoi en parler? Pourquoi faire cette entrevue-là dans le Journal de Québec?
Ah, ben c'est parce que je me suis fait poser la question. Mais c'est parce qu'on a modifié les règles de notre parti. C'est que hier, on avait l'Assemblée générale de Québec d'abord. Et les règles se prévoyaient, c'est que comme chef du parti, je suis automatiquement candidat à la mairie. Là, hier, on a adopté un processus. On crée une assemblée d'investiture pour nommer. Tu sais, on fait comme séparer le poste de chef du poste de candidat. On va avoir une assemblée d'investiture entre 6 et 12 mois avant l'élection où on va identifier le candidat. Ce sera peut-être moi. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre de mon équipe. S'il y a quelqu'un de l'extérieur qui se présente, on va discuter. Puis on pourrait peut-être même avoir une course au leadership, une espèce d'affrontement, là, s'il y avait une ou deux personnes ou trois qui étaient intéressées. Donc, on s'est juste doté d'un mécanisme. Ça fait en sorte que maintenant, je peux réfléchir à cette question-là sans, je le dis en guillemets, me sentir obligé d'y aller. Ouais. Parce que je suis candidat désigné déjà.
Okay. Mais moi, je vais être sûr, vous allez terminer ce mandat-ci.
Ah, absolument.
Parfait.
Ah, absolument.
Parce que je suis très cruel moi, envers les politiciens. Là. Vous lancez dans un mandat de 4 ans, vous promettez de représenter vos électeurs pendant 4 ans. Moi, là, je trouve ça formidable. Mais ceux qui, après un an et demi, disent « Ouais, finalement, c'était pas ce que je pensais, je chaque mon camp. » Tu sais, j'ai encore, c'est pour vous dire à quel point là, je suis rancunier, j'ai encore sur le cœur ce que Christian Dubé avait fait à Lévis.
Oui, puis
Christian Dubé, il avait une job à 1 million $ par année, c'était chez Cascade, se présente avec la Coalition Avenir Québec. Finalement, la Coalition Avenir Québec prend pas le pouvoir, décide de sacrer son camp. Le contribuable, lui, ça coûte 600 000 $ de plus pour des élections partielles. Lui, il s'en va à caisse de dépôt de placement avec ses amis. Encore 1 million $ par année de salaire. Puis après ça, il revient quelques années plus tard. Puis là, il veut redevenir politicien parce que son parti est au pouvoir. Ça, moi, je l'ai tout le temps sur le cœur. Si on se lance pour un mandat de 4 ans, comme vous le faites, puis vous le faites jusqu'à la fin, il n'y a personne qui a le droit de vous en tenir rigueur si vous voulez quitter par la suite. Là. Personne. Vous avez donné 4 ans de votre vie. Vous l'avez promis à vos électeurs, puis vous avez respecté votre entente. Ouais. Là, je vois qu'il y a des gens qui sont mécontents parce qu'ils disent, bien là, vous êtes chef de l'opposition, il faudrait peut-être se lancer contre le maire aux prochaines élections. Mais ça vous appartient à vous, ça appartient à personne d'autre. C'est vous et votre famille.
Bien, en fait, moi, d'abord, je ne me suis même pas présenté chef de l'opposition. Il n'y a personne qui postule pour ce job-là. Moi, je me suis présenté conseiller municipal.
Ouais.
Puis ça, je le suis, puis j'adore ça, faire ça. Puis, tu sais, si vous me posez la question sur ce statut, ben en fait, la réalité, c'est que je vais probablement solliciter un autre mandat. Tu sais, pas me présenter maire, ben j'aurais probablement encore envie d'être candidat dans mes
relais. Donc, vous pourriez rester conseiller quand même.
Ah oui, okay. Puis, tu sais, tout dépendant. Moi, j'adore l'équipe dans laquelle on est, Québec d'abord, les 7 élus. J'aime travailler pour mon monde, j'aime travailler pour le monde de mon secteur. Moi, moi je viens d'un village au Lac-Saint-Jean, je retrouve un peu ça dans mon quartier. Je suis vraiment heureux de ça. Puis, par ailleurs, moi, je trouve même que comme maire potentiel, ça me donne la valeur d'avoir connu c'est quoi le travail de conseiller municipal de terrain, les préoccupations des citoyens. Je trouve ça très noble. Puis par ailleurs, je me permets de dire que j'en ai des chums qui font de la politique provinciale ou fédérale, puis la politique municipale, elle se concilie vraiment. Tu sais, il y a du monde qui me dit ça, ah, Claude, tu ouvres là, t'en allais au PQ. La politique municipale, elle se concilie beaucoup mieux avec la vie familiale que n'importe quelle autre politique parce que moi, je suis à l'hôtel de ville et dans mon district à tous les jours. J'ai pas de dynamique Québec-Ottawa, circonscription, tu sais. Puis je m'occupe des affaires qui concernent mon quartier, mon secteur, l'environnement dans lequel mes filles grandissent. Fait que moi, j'adore ça, le conseiller municipal. C'est pas ça que je remets en question. Pas une maudite minute. Là.
J'ai vu des adeptes de la théorie du complot qui ont mentionné que Claude Villeneuve pourrait peut-être se présenter comme candidat aux prochaines élections pour être conseiller et après joindre l'équipe du maire parce que votre parti ressemble beaucoup au parti du maire. Vous avez sensiblement les mêmes idées. Vous répondez quoi à ces gens-là qui pensent que vous avez une stratégie derrière la tête?
Bien, si ça avait été pour être ça, je l'aurais fait au début du mandat. T'sais, je veux dire, j'aurais eu 3 ans là, pour...
Vous auriez été transfuge à la Jean-François Gosselin?
Bien, si c'est le genre d'affaire... Si mon but, c'est de me joindre à l'équipe de Bruno Marchand, je n'attendrai pas la prochaine élection. J'ai juste à l'appeler et à le faire tout de suite. T'sais.
Pour y le faire tout de suite.
C'est ça. Mais en fait, mon but, c'est pas de faire ça. Parce que, d'une part, plus ça va, plus les différences apparaissent entre Bruno Marchand et nous.
Est-ce qu'on peut les voir? Parce qu'on avait jasé, vous et moi, à votre retour de vacances. Vous avez dit, dans ma propre famille, le monde pense que je travaille pour Bruno Marchand. T'sais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je vous avais dit, mais M. Villeneuve, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse la différence entre le parti de Bruno Marchand et le parti de Claude Villeneuve, puis il m'avait dit « Oui, on va travailler là-dessus. » Actuellement, c'est quoi les grosses différences marquantes? Là?
Bien, d'abord, je vais donner un bon exemple, puis on est beaucoup sur ces dossiers-là présentement. On critique beaucoup des projets de réaménagement que Bruno Marchand fait là, pour faire du verdissement, pour faire de la piétonnisation, pour faire passer des pistes cyclables. Tu sais, sur Saint-Vallier, ils veulent mettre la rue Saint-Vallier sens unique, de sorte que les autobus qui passent là, ils vont passer des petites rues résidentielles, ça va gâcher la vie des résidents, puis les personnes âgées puis les personnes handicapées, ils vont devoir se déplacer par eux-mêmes encore plus loin pour aller prendre leur arrêt d'autobus. Tu sais, ça, là, ça commence à ressortir. Là. Bruno Marchand puis ses projets de pistes cyclables qui poussent dans la marge les personnes handicapées puis les personnes âgées, pour nous, on trace une ligue dans le sable, c'est non. On se ressemble dans le sens que moi, je suis pas contre le verdissement, je suis pas contre les pistes cyclables, mais quand ça tasse des clientèles vulnérables, on est contre. Puis ça, comme opposition, on fait le travail. Puis on fait le travail sur d'autres sujets. En matière d'économie, Bruno Marchand, il n'est pas là. Ça fait au-dessus de 2 ans qu'il est là. Il vient de faire sa première mission économique. Nous, on parle d'économie, on insiste là-dessus, on est proche des entrepreneurs. On a... On, Moi, plus ça va, je trouve que Bruno Marchand s'est positionné vraiment à gauche. Là. On dirait qu'il s'est... C'est ça qui est bizarre. Il a fait une alliance avec Jean-François Gosselin, mais il veut aller chercher les votes de Transition Québec. C'est ça qu'il a l'air de vouloir faire. Moi, je pense qu'on a besoin d'une vraie option centriste. Ce qu'on a aimé à Québec, du monde qui prenne des décisions responsables.
Pis... Le gros bon sens?
Ben, le gros, j'appellerais pas ça le gros bon sens, mais tu sais, aller là où les gens de Québec sont. Ouais. Le monde de Québec, ils sont pas fous, là. Ils en veulent des projets de verdissement, ils sont pas contre les pistes cyclables, mais ils veulent pas que ça gâche la vie à tout le monde. Puis, le monde de Québec s'intéresse à l'économie, ils veulent que la ville soit bien gérée. Puis, moi, je trouve qu'il y a un gros problème de leadership à Québec présentement, puis il y a un discours à développer. Moi, je pense que les gens cherchent une alternative à Bruno Marchand, puis avec mon équipe, on travaille à le leur offrir.
La taxe Minou.
Oui, on a voté contre.
Vous avez voté contre, effectivement. Oui. C'est la raison pour laquelle je vous en parle. Je ne me suis pas encore inscrit. J'ai hâte de voir quand est-ce que la Gestapo va arriver à la maison pour savoir si j'ai des chats, pour que je puisse leur mettre des médailles. Vous savez comment ça fonctionne quand vous avez des chiens? Si vous ne les avez pas enregistrés, il y a une escouade qui passe, puis qui cogne à votre porte, puis le chien jappe. Donc, il vous laisse un genre de courtesy tag en français. C'est...
Ah ben, je veux dire un mémo, mettons.
Un mémo un comme quoi si vous veux. Devez enregistrer votre chien parce que c'est important de le faire. Puis il y a des coûts appropriés à ça. Mais moi, je l'ai un peu sur le cœur, la taxe Minou. Puis je me dis, tu sais, on s'en va chercher un peu d'argent par-ci, par-là. Puis de l'autre côté, on fait travailler des gosses, des opérations de plus $1 million pour déneiger la ville. Puis il y a des images vidéo qui se promènent sur les réseaux sociaux où les grattes sont à terre, des grosses flamèches. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, les photos que j'ai mises sur les réseaux sociaux, mais dans les rues, c'est clairement évident que ça a gratté l'asphalte. Il y a certains endroits où il y a des mottes d'asphalte qui sont partis. Je comprends un peu la stratégie du maire marchand en disant qu'il y a certaines bouches d'égout qui étaient bouchées, puis il y avait des enjeux là et tout ça. Mais $1 million pour faire tout ça alors qu'ils ont fait sortir tous les gars, je trouve ça très particulier. Y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas dans ce dossier-là, si ce n'est que il y avait une sortie là, puis il fallait absolument le faire?
Bien, quelque chose. Si hier, il y a eu sur Roche, le dossier du déneigement depuis que Bruno Marchand est maire.
Mais les gars, ils ont-tu des heures garanties?
On a posé la question. Je sais pas. J'ai dit, là, il y a les cols bleus qui ont un mandat de grève. Là, fait que peut-être qu'ils voulaient faire travailler les gars un peu avant que ça arrive. Mais. Tu sais, on a trouvé ça étrange qu'ils sortent aussi. Puis, tu sais, la justification, il y a peut-être 2% de la rue où il y a de la neige, il faut la ramasser. Bien, envoyer des équipes pour t'en occuper de façon ciblée. Il n'y a pas la ville au complet. On a trouvé ça complètement ridicule. Puis là, tu sais, quand il y a du monde, l'opposition, il aurait chialé si les gars n'étaient pas sortis. Je dis, non, moi, quand les gars sortent pas, je ne fais pas de sortie s'il n'y a pas de neige.
Mais il faut que ça soit justifié, chaque sortie de neige. Il faut que ça soit justifié.
Bruno Marchand, au début, c'est toujours de la même façon. Hein, tu sais, il a justifié ça en disant, on n'avait pas le choix, il fallait faire de. Au début de l'hiver, il nous niaisait, il disait « on peut pas ramasser la neige avant que ça tombe ». Là, il nous a dit « il fallait sortir parce qu'il y avait 10 cm qu'elle allait tomber après okay? ». Fait que là, c'est rendu tu peux déneiger préventivement.
Parce que les gars de la ville, là, moi j'ai parlé à des cols bleus, ils étaient fâchés.
Ben, ils comprennent pas.
Ils étaient fâchés.
Parce que c'est une bonne raison, juste bien nous l'expliquer, puis on va comprendre. Mais là, c'est sûr qu'on est un peu dans l'incompréhension. Là.
Il m'a écrit par Messenger, tu sais, Yann, moi j'aime ça. Là. Lui, il a des petites chenillettes, là. Il dit « j'aime ça faire mon déneigement », mais il dit « encore faut-il qu'il y ait de la neige ». Là, on me demandait de passer à certains secteurs, puis ils se font caler, là, de ce que je comprends. Il y a comme une unité où ils leur disent « tu fais cette rue-là, puis avec les GPS et tout ça. » Puis lui, il déneigeait de la neige qui n'existait pas. C'était particulier.
Ouais, puis tu sais, c'est ça, avec les briques, ça peut entraîner sur les machines.
En plus.
Avec les gars. Puis tu sais, c'est pas une job facile. Là. Ils sortent de nuit. Là. Ils sont pas chez eux pendant ce temps-là. Tu sais, genre, moi, je pleurniche bien là, pour mes rencontres de soir comme conseiller municipal, mais eux autres aussi, ils sont pas chez eux dans ce moment-là où leur famille se repose. Quand ça s'est arrivé, Bruno Marchand, là, on était tous des imbéciles. Ben oui, c'est évident, il fallait sortir, puis c'était comme juste remettre ça en question, c'était comme une hérésie.
Puis Pierre-Luc Lachance, lui, sa réaction?
Ben là,
c'est lui qui est responsable du déneigement à la Ville de Québec.
Pierre-Luc Lachance, il nous a dit au conseil que c'était une sortie de gestion de risque pour s'assurer que tout était correct. Par
non, mais mis à part ça, s'assurer de gestion de risque, il a développé comment?
C'était ça? Il nous a expliqué, sur une rue, il peut avoir 98% qui est sur l'asphalte, mais 2% qui est sur la neige. Puis là, il faut sortir pour ramasser ce 2%-là parce qu'il y a plus les heures qui peut boucher.
Les gens de quartier, il paraît, sont bien fâchés.
ils sont pas quand ils ont besoin. Puis cette semaine, au conseil d'arrondissement, là, il s'est fait poser la question par un citoyen, puis il a dit « ça fait partie des politiques qu'on va revoir dans notre révision de la politique de déneigement. » Parce que vous savez que le maire parle de réduire le niveau de service. Moi, je dis, tu sais, j'ai une bonne idée pour réduire le niveau de service, une bonne idée pour économiser, ce serait de ne pas sortir quand on n'a pas besoin.
Mais c'était pas fait à l'automne, ça? la révision de... Tu sais, on avait demandé une enquête printemps dernier, puis on nous avait dit, il est trop tôt, on est au printemps. Il faut ramasser les données, puis on va être capable de vous présenter quelque chose à l'automne. Moi, ma mémoire fait rarement défaut sur ce genre de choses-là. Puis après ça, ils nous avaient dit, bon, OK, on va essayer de récolter certaines informations. On a fait une analyse, on était supposé être en gestion, justement, de tout ça. Puis on nous dit qu'on retourne encore dans une gestion X prochainement.
Écoute, Pascal, à chaque événement, la ligne change. C'est comme s'il y a quelque chose qui est constant, c'est le changement là, avec l'équipe marchand. Là, c'est toujours une justification différente. Au début, quand on critique, on est toujours tous des imbéciles. C'est pas juste parce qu'il y a un propriétaire de pub sur quartier qui n'est pas content. Puis, tu sais, c'est très dogmatique avec Bruno Marchand. Puis là, ben là, il entend la grogne. Puis après quelque temps, oh, OK, on va revoir ça. Ah non, c'est tout un processus d'amélioration continue. Puis, à tous les fois, ça commence qu'on est des imbéciles si on critique. Puis à la fin, « Ah non, mais on est en train de réviser ça, faites-vous-en pas. »
Ça fait des années qu'on est dans des révisions de politique.
Ben,
de
c'est ça. Puis, tu sais, c'est difficile. Là. Quand vous me demandiez tantôt si j'envisagerais de joindre le parti Bruno Marchand, mais c'est le même sur tout. Avec son équipe, Bruno Marchand, c'est très dogmatique, c'est très croix aux mères, puis il n'y a pas beaucoup de place pour la discussion, là, parce qu'eux autres, ils ont donc bien l'air à savoir ce qui est bon pour nous autres. Moi, travailler avec du monde de même, je déteste ça.
Ça vous intéresse pas du tout.
Hey, bon, ça, là, vous allez dire que je suis un peu de mauvaise foi. Hey, oui, des fois, je le suis un peu. Brossons donc un peu de marde, comme l'autre il disait. Le pont qui s'est effondré à Baltimore, ça m'a fait revenir sur les réflexions que j'avais dans le cas du pont Pierre-Laporte puis le pont de Québec. Pont de Québec, on sait qu'il va tenir encore pendant un certain temps. On ne sait pas s'il va être là dans 100 ans, mais on sait que les camions ne peuvent pas passer là. Pont Pierre-Laporte, on sait que s'il y a des paquebots qui arrivent, il y a très peu de chances qu'ils accrochent les arceaux, les piliers, parce qu'ils sont à l'extérieur de l'eau. Mais s'il arrive une tragédie, puis la tragédie qu'on peut s'imaginer, c'est une citerne d'essence qui se renverse. Ça prend feu, le bitume brûle, puis là, le pont Pierre-Laporte doit fermer pendant quelques semaines, même quelques mois, dans le cas où c'est un peu plus sévère. On n'a pas de plan B à Québec. Puis Baltimore, j'ai été voir la conception de Baltimore, il y en a plein de plans B. Là. Mis à part pour le port, là, qui va être un peu plus problématique, ils vont pouvoir passer sur plusieurs ponts. Nous autres, on a une problématique de pont qui accepte les camions. Puis le plan B, c'est le détour vers le pont La Violette. Ça va-tu, à un moment donné, arriver au conseil de ville, voter une motion pour qu'à un moment donné, le fameux plan B soit mieux qu'un détour de 200 km?
Mais en plus, on en a déjà parlé, puis on mentionne...
Je vous achale tout le temps.
On mentionne le pont La Violette comme plan B. Moi, ce que j'entends depuis hier des différents spécialistes, c'est que ce serait le plus vulnérable à un accident comme il est arrivé à Blanc-Bois.
Le pont La Violette?
Le pont La Violette, parce que ses piliers sont dans l'eau.
Ils sont plus petits, oui, exactement.
Ils sont plus petits, ça serait le plus vulnérable. Donc,
notre plan B est vulnérable.
Écoutez, là, il y a Bernard Drainville, là, il paraît là, qu'il y a eu des informations pour nous dire que la Caisse proposerait un lien... Parce qu'il n'a pas spécifié un lien routier. C'est
un
pas
troisième
trop clair.
Lien.
troisième lien.
Et que François Legault doit être fâché contre lui, là. C'est pas vrai. Je dis même pas ça en farce, là.
Mais c'est... Tu sais, c'est... Moi, je suis pas... Je ferais pas semblant. Je suis pas un grand partisan du troisième lien.
On le sait.
Mais l'argument que je suis pas capable de contrer en faveur d'un troisième lien... C'est le fait qu'on n'a pas d'alternative en cas d'urgence.
Ça, c'est pas quoi, assez. C'est quoi pour le plan de contingence? Un peu plus flanché.
Ben moi, à la fin, je suis intéressé à entendre n'importe quelle solution qui nous permettrait de régler ça. Puis là, ben, un coup qu'on l'a identifié, la solution, à quel prix, dans quel mode de réalisation, à quelle place qu'on le fait passer, je suis intéressé à tout parler de ces choses-là. Moi, je suis pas fermé, là, mais dans la dernière solution, quand on parlait d'un tunnel en dessous du fleuve qui sortirait à Limoilou, qui serait le plus long et le plus profond au monde, oh my God, j'ai jamais cru qu'une affaire comme ça était réalisable. Puis je pense que s'il y en avait un, troisième lien, c'est à l'est qu'il faudrait qu'il soit. C'est là que ça aurait du sens. Donc, moi, j'attends toujours d'avoir une solution qui permette de cocher toutes ces cases-là.
Tu sais, ce que j'entends dans votre vocabulaire, parce que c'est pas la première fois que j'en parle avec vous, puis, tu sais, je me rappelle que le tramway, je vous disais, vous êtes prêt à y aller jusqu'à quel montant? Vous aviez pas de montant. Ça veut dire que vous étiez prêt à y aller très loin.
J'en avais un, c'est juste que je disais pas.
Ouais, c'est ça. Puis de l'autre côté, quand on parle du troisième lien, à chaque fois, ça dépend c'est à quel coût. Fait que pourquoi, oui, le tramway, fonçons là-dedans à n'importe quel prix? Là, vous me dites que vous aviez un prix dans votre tête, mais vous ne me le disiez pas, petit cachotier. Mais pour ce qui est du troisième lien, ça dépend du prix. Alors que le troisième lien va servir à 100% des gens et le tramway va servir à peu près à 10%, moins de 10% de la population de Québec.
C'est pas juste le prix. Si tu me dis, mettons, alors, regarde là, on est vraiment en théorie. 12 milliards, ouh, c'est cher. Mais oh, OK, il passerait à l'Est. Il ne scraperait pas l'île d'Orléans.
Il y aurait du transport en commun.
On fait passer le transport en commun. OK, il commence à régler pas mal d'affaires, là, ce lien-là. c'est ben si tu me dis t'sais, un prix moins élevé, mettons 6 milliards, puis ça passe en dessous du fleuve, ça sort à Limoilou. Je te dis non, tu sais, c'est pas juste
parce fonction du prix. Parce que vous pensez à vos citoyens aussi.
Ben c'est ça. Ouais. C'est pas juste fonction du prix. Puis c'est la même chose avec le tramway, c'est que le projet, je l'aimais. Tu sais, je trouvais qu'il passait aux bonnes places, je trouvais qu'il réalisait, qu'il répondait aux bons besoins. Moi, c'était l'évaluation que je faisais. Ouais. Fait que c'est sûr que tu as une tolérance plus élevée à une hausse de coûts quand tu trouves que c'est le bon projet. Fait que moi, c'est toujours. Puis il y avait ça aussi quand on me posait la question, savoir c'est quoi la limite du prix. T'sais, ça va être quoi les conditions de marché? Si tu me dis, on est capable de le faire à 6 milliards, mais il va arrêter à l'Université Laval, j'aurais, ça répond pas vraiment aux besoins. Mm-hmm. Fait que c'est pas juste le coût, c'est le projet, c'est le besoin auquel il répond. Puis, tu sais, il répond-tu aux besoins des gens? Parce que, je le vois, Yannick, là, qu'il y a une demande pour ce lien routier-là qui serait à l'Est. Moi, c'est toujours ce que j'en ai compris. Il y aurait un autre argumentaire pour le fait qu'il soit à l'Ouest. En tout cas, l'idée d'un pont de remplacement. Il est peut-être plus en faveur de l'Ouest, je sais pas, mais c'est en voyant le projet que tu peux te faire une tête. Là.
Parce qu'on sera probablement plus là, le mec a le troisième lien qui va se bâtir. Ça prend 15 ans à peu près, un pont à bâtir là, au Québec. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer tout ça. Je regarde la désuétude du pont de l'île d'Orléans. J'étais encore passé dessus dans les derniers jours. Tu sais, plan B, là, c'est quelqu'un qui travaille au service de sécurité qui me l'a appris, c'est le Traverse Québec-Lévis. Là.
Mais ça, c'est quand ça fonctionne aussi.
Ouais, si jamais le pont de l'île d'Orléans est problématique, il l'a déjà été, le plan B, c'est la Traverse Québec-Lévis.
Mais
pourquoi on est patenté de même?
Mais moi, c'est un des autres problèmes.
On est les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord. Si on est citoyen de Québec, là, avec ce qu'on a au fédéral, au provincial, ce qu'on paye sur tout ce qu'on achète, puis les taxes municipales qu'on paye ici, puis on est patenté de même. Puis il faut tout le temps demander aux politiciens, pratiquement, on essaie d'avoir leur pitié, on veut un plan B. Ça devrait pas être comme ça.
Mais moi, c'est un des autres problèmes quand on parle de mobilité à Québec puis au Québec en général. Tu sais, c'est qu'il y a tellement des affaires qu'on a négligées. Les traverses, c'est un bon exemple. C'est notre patrimoine, le fleuve. Il arrive, là, François Legault, il publie un livre, Projet Saint-Laurent. Bernard Dréville dit « Le fleuve nous unit ». Tu sais, puis tout ce qui passe par le fleuve, ma blonde vient de m'attendre. Hey, je peux-tu dire que j'en entends parler du traversier qui marche à moitié pas à Matane, là, à chaque fois que je vais là-bas. Il y a les traverses, il y a la tête des ponts, dossier qui n'a pas avancé. Il y a le pont de l'île d'Orléans, ça ferait longtemps que le remplacement devrait être fait. C'est que tout, il n'y a rien qui avance dans le secteur. Puis là, ben, tu sais, le projet de tramway, c'est des PQFRA qui tendraient de l'avoir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça.
Bien, vous allez avoir votre tramway, puis vous allez avoir peut-être un troisième lien de prévu qui va être à côté des deux autres.
Mais là, Bernard, il l'a pas dit. Là, si on aurait...
Mais moi, je le dis, là, il va probablement mettre un troisième lien à côté des deux autres.
Ben, c'est bon.
Parce qu'il y a un ingénieur des transports qui me l'a dit, Diane, ce serait le meilleur endroit à Québec et ce serait stratégique, puis toutes les études sont déjà faites. Donc, on met le troisième lien à côté des deux autres, ce qui, pour ma part, serait totalement débile. Parce que s'il y a une congestion quelque part, s'il y a un accident quelque part, faut passer à quelque part d'autre. Mmh. Là, ils nous envoient tous à la même place. Puis il y a un ingénieur à part qui travaille pour le privé qui dit, Yann, c'est exactement cet endroit-là que je le mettrais. Là. Ce serait le plus vite qu'on pourrait faire.
Probablement à l'ouest des deux points actuels.
Probablement à l'ouest des deux points actuels.
Je suis toujours intéressé à m'en faire proposer, mais je trouve qu'il y a beaucoup de politiciens qui parlent d'affaires qu'ils ne connaissent pas quand on parle de transport et de mobilité. Puis quand je regarde Drainville, c'est un peu ça que je trouve. C'est il va en avoir un lien. T'sais. Puis c'est comme... Il y a beaucoup de légèreté là-dedans, puis c'est des sujets, c'est des dossiers qui sont compliqués.
Est-ce que tu peux savoir vraiment tout? Est-ce que tu peux vraiment comprendre les dossiers? Moi, c'est une question que je commence à me poser, honnêtement, là, même en politique, où c'est vraiment simplement les experts derrière, si on les consulte, si on donne des enveloppes budgétaires pour qu'ils fassent l'établissement de projection ou de plan X qui...
Je pense que point de vue technique, non. On ne peut pas demander aux politiciens d'être des experts en tout, là, mais je pense qu'un politicien qui se promène moyennement... Là, à certains endroits, peut comparer avec ce qu'on a ici puis peut nous amener des bonnes idées. T'sais. Puis on peut exporter nos bonnes idées, mais on peut aussi en importer. T'sais. Pourquoi toujours vouloir faire nos affaires entre nous? On regarde ce qui se passe ailleurs, si ça fonctionne. Let's go, l'amène ici. Les Chinois sont devenus une force mondiale de même.
T'sais, c'est sûr
ouais,
que...
là, je vais rien dire.
Et c'est sûr que quand tu fais de la politique, par définition, tu parles toujours à du monde qui connaissent mieux leurs affaires que toi. T'sais, tu parles à des experts, tu parles à des spécialistes. Ouais. Tu parles à des citoyens qui disent « Sumaru, le déneigement est mal fait. » Quand même que je suis dans mon bureau à l'hôtel de ville, je leur dis « Non, madame, le déneigement était très bien fait chez vous. » C'est toujours ben, elle qui le sait, c'est dans sa face. Et les citoyens, c'est les experts de leur milieu. Quand tu es un politicien, en fait, tu fais des arbitrages entre ce que le monde, entre ce que plein de monde qui ont raison, qui connaissent leur réalité, te disent. T'sais. Fait que c'est ça, à un moment donné, c'est qu'il y a des experts qui nous disent affaires sur la mobilité, tramway, troisième lien, tout ça. Puis il y a des citoyens qui disent « Hey, moi, je voyage Rive-Sud, Rive-Nord à tous les jours. Ça bloque, c'est long. » OK, fait qu'il faut que tu leur trouves une solution. T'sais, c'est un peu ça, l'idée, c'est de faire des arbitrages. Fait qu'à la fin, non, Pascal, on vient jamais des spécialistes de tout. Quoi qu'à la fin, hey, moi, je suis rendu, je connais les ascenseurs. Je t'en parlerai une fois. Là, c'est comme,
t'es resté pris dedans?
Non, mais j'ai une habitation à loyer modique dans mon district là, qui a été 6 ans.
Oui,
qui a été 13 mois sans ascenseur.
Oui, vous en avez
J'en
parlé.
J'en ai appris des affaires sur les ascenseurs.
Il dit, je t'en parlerai un jour. Ah, OK. Ben,
il nous en a parlé. Je pense que c'était Hello qui était là, mais vous nous en aviez parlé une fois que vous étiez passé. Fait que vous êtes rendu un expert en ascenseur.
Ça, toi, qu'un ascenseur, le piston, il va dans la terre aussi profondément que la hauteur du building.
Ah, non,
s'il y a 6 étages, là, il va 6 étages dans la terre, le piston, pour faire descendre ta cabine d'ascenseur. En tout cas, on finit par connaître des choses insoupçonnées quand on fait de la politique.
Claude Villeneuve, ça a été un plaisir.
Toujours un plaisir.
Je souhaite de passer une agréable fin de journée, puis on se rejase pour une petite discussion d'une couple de semaines.
Ben voilà.
Salut, merci. Bye-bye. Marceau le midi.